Je suis très heureuse d'être parmi vous à l'occasion de la rentrée de la maison de quartier du 3 mars pour échanger ensemble autour du thème 10-12 ans entre envie d'autonomie et besoin de repères. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça résonne un petit peu ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort?
On ne peut pas fermer le rideau là?
Vous pouvez pas vous approcher? Ouais, je vais. Faudrait voir avec les. Je peux tirer un peu sur la voix en attendant, hein, y a pas de souci. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Natacha Georges, je suis psychologue et je travaille notamment pour l'école des parents et des éducateurs du Maine-et-Loire. Cette association a la vocation à accueillir, informer, accompagner les parents par rapport à toutes les questions qui pourraient se poser autour de la parentalité. Donc moi j'interviens pour eux sous la forme de soirées débats, d'ateliers et d'entretiens psychologiques tous les jeudis soirs avec les parents. À côté de cette activité là, je travaille aussi dans d'autres lieux, dans un lycée professionnel à Angers et aussi auprès des étudiants à l'université d'Angers. Je travaille aussi en libéral à domicile, je me déplace chez les personnes qui en présentent le besoin. Ah, c'est bien avec le... on s'entend mieux. Donc voilà, la palette de mes activités et l'accompagnement des adolescents, il est vraiment au cœur de ma pratique. Donc, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, donc avoir 10-12 ans entre envie d'autonomie et besoin de repères, moi j'aurais aimé la placer d'abord avant de commencer dans son contexte. En fait, 10-12 ans, avoir 10-12 ans, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les enjeux de cette tranche d'âge? Alors, 10-12 ans, c'est ce qu'on pourrait appeler la période de la préadolescence. Donc, la préadolescence, elle commence au niveau des signes de la puberté, donc vers 9-10 ans chez les filles et 11 ans chez les garçons. Je trouve ça intéressant de souligner que l'adolescence, elle commence de plus en plus tôt. Là, elle commence 2 à 3 ans plus tôt qu'il y a 30 ans, par exemple. Et elle se termine aussi plus tard, parce que l'entrée dans la vie active, elle est repoussée. Les enfants, ils quittent le nid de plus en plus tard. Donc on se retrouve avec une période d'adolescence qui dure de plus en plus longtemps, pour notre plus grand plaisir. Hein. Et du coup, on a dû créer des sous-catégories de l'adolescence pour mieux décrire les enjeux de ces tranches d'âge. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de préadolescence. Donc au-delà des changements physiologiques, des changements physiques qui sont en lien avec la puberté, il y a aussi des changements au niveau du comportement. À cet âge-là, c'est un âge où le social, où les relations sociales, elles prennent de plus en plus d'importance. L'enfant... Alors, où est-ce que j'en étais ? Donc, ils vont passer de plus en plus de temps avec leurs copains. Mais tout en ayant besoin que les parents, de sentir que les parents, ils restent là pour eux. Donc concrètement, au quotidien, ça va être le grand écart. Ça va vous donner un enfant qui va refuser de vous embrasser en public, surtout devant les copains, par exemple, mais qui le soir va bien apprécier son petit câlin, un peu cocooning quand même, avant d'aller se coucher. Ça peut vous donner un enfant qui va réclamer un smartphone pour aller faire des jeux en ligne avec ses copains. Mais qui continue de regarder en boucle ses dessins animés préférés. Donc c'est vraiment le grand écart. En tant que parent, c'est une période qui a de quoi vous faire tourner en bourrique, hein, clairement. Donc qui n'est pas forcément évidente. Il y a un pédiatre psychanalyste britannique, Donald Winnicott, qui avait la formule, enfin il disait ça pour rire, mais ça décrit bien. Vous avez semé un bébé, vous récoltez une bombe. Hein, c'est une phrase humoristique. Mais pour montrer un petit peu tous ces bouleversements auxquels on peut être confronté en tant que parent. En fait, l'adolescence, ça va être plein de paradoxes. L'adolescent, pour se développer, pour prendre son envol, il doit prendre son autonomie, donc il doit se détacher de ses parents, mais il est encore dépendant d'eux. Il est coincé entre cette envie d'autonomie et puis ce sentiment de dépendance. Bah, il ne peut pas se débrouiller encore tout seul, il doit rester à la maison, respecter les règles de la maison. Donc ça, c'est un paradoxe qui va être pas forcément facile à gérer. Donc le développement de l'autonomie, il va commencer d'abord par une autonomie qui va être affective et qui va se traduire par l'importance grandissante du groupe de copains. Alors entre 10 et 12 ans, l'enfant il va commencer à désidéaliser ses parents. Vous êtes plus son héros, vous êtes plus son seul et unique modèle. Désolé. Donc, il va se tourner plutôt vers les copains. Et les copains, ils vont prendre de plus en plus d'importance jusqu'à devenir vraiment la principale référence, notamment à l'adolescence. Donc, à cet âge-là, à partir de 10-12 ans et tout au long de l'adolescence, l'enfant il va chercher l'approbation, l'acceptation par un groupe de copains. Il va comprendre que plus il aura de l'importance dans ce groupe, plus il aura de l'influence sur ses camarades. Donc, le groupe de copains, c'est vraiment très très important à cet âge-là. C'est ce qui va lui permettre finalement de tester ses interactions avec les autres, avec l'extérieur. Il va tester ses comportements, il va tester des façons d'être. Et c'est avec le retour du groupe de copains, ce que va lui renvoyer le groupe de copains, qui va construire peu à peu qui il est, qui va pouvoir se situer par rapport à eux, savoir qui il est en tant qu'individu, comment il se différencie des autres. Donc vraiment, les interactions dans le groupe de copains, elles sont très importantes. C'est en faisant partie d'un groupe que l'enfant il va expérimenter différentes situations comme la coopération, hein, l'entraide, mais aussi la compétition, la pression sociale, la popularité et puis le rejet. L'enfant il va chercher à tout prix à éviter le rejet à cet âge-là et la solitude qui en découle. Par exemple, manger tout seul à la cantine le midi au collège, ça va être le cauchemar de beaucoup d'ados. Moi, j'ai le souvenir d'une jeune fille de l'établissement, le lycée professionnel où je travaille, il y a des classes de collège, en fait. Et je me souviens d'une collégienne que j'avais reçue en entretien et qui était complètement décomposée, qui voulait absolument rentrer chez elle. Donc, en creusant, on essaie de comprendre mais pourquoi elle doit absolument rentrer chez elle. Et elle m'explique que sa meilleure copine, en fait, aujourd'hui, elle n'est pas là. Et qu'elle se retrouve toute seule. Et que c'est impensable pour elle de manger toute seule à la cantine le midi. Et donc, il fallait absolument que sa mère vienne la chercher. Donc ça, ça illustre bien le fait que être seule, être vue seule par les autres, sans groupe d'appartenance, sans son binôme, là, c'était sa meilleure copine, c'est vraiment vécu comme un cauchemar. Elle ne faisait pas du cinéma, hein, c'était vraiment très compliqué pour elle. Donc pour pas être seul, l'enfant il va être prêt à faire beaucoup de choses pour faire partie du groupe, pour se sentir accepté du groupe. Il va comprendre que pour se faire accepter par son groupe de copains, il va devoir respecter les règles du groupe, les valeurs du groupe. Il va vraiment se conformer à ce que le groupe attend de lui. Le besoin de conformité à cet âge-là, il est aussi important. Il a besoin de sentir qu'il appartient à un groupe. Typiquement, la conformité, enfin, vous le voyez bien, les jeunes, les ados, ce besoin de conformité, il peut s'illustrer notamment au niveau du style vestimentaire. On va avoir des jeunes filles qui s'habillent toutes pareilles, ou les garçons qui vont avoir tous la même coupe de cheveux, de préférence celle de, je sais pas, Ronaldo, le footballeur, voilà. Donc ça, c'est normal, ça répond à ce besoin de se conformer au groupe, sentir qu'on appartient à un groupe. L'enfant, à la base, il appartient à son groupe famille. Et comme il doit prendre son autonomie, il est dans d'autres groupes, dans le groupe de copains. Donc là encore, ça va être un peu le grand écart. Parce que il doit se conformer à ce groupe, se fondre un peu dans la masse, hein, correspondre à ce moule, mais en même temps développer sa propre identité, rester lui-même. Il ne peut pas s'effacer dans le groupe. Sinon, il ne peut pas développer sa confiance en lui. Donc il doit suffisamment être lui-même et se conformer dans le groupe. Donc encore une fois, on est dans une situation qui est assez paradoxale, qui n'est pas évidente à gérer. Voilà, on retrouve le grand écart du travail d'adolescence dont on parlait tout à l'heure. Donc, plus l'enfant il va développer ce groupe de copains, plus il va avoir envie d'autonomie et de liberté pour passer du temps avec eux. Donc, l'autonomie et la liberté, ça va ensemble. On ne peut pas développer son autonomie sans liberté. Il faut une petite marge de manœuvre, une marge de liberté pour pouvoir développer cette autonomie-là. Par contre, de la liberté qu'on donne sans que l'autonomie elle, soit encore développée, là, ça peut amener à des prises de risque, à du danger. C'est vraiment important de y aller petit à petit. Et de mesurer quelle liberté on laisse en fonction de quel degré d'autonomie. Donc c'est quelque chose qui va se faire vraiment de manière progressive, pas à pas. L'idée, donc, ça va être d'y aller petit à petit, de lui faire faire des choses qu'il va être capable de faire, des choses pas trop dures, pour que bah, il développe sa confiance en lui, qu'il développe sa capacité à faire des choses. Et puis, vous, ça vous permet aussi de mesurer qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi. Par exemple, ça peut passer par des petites choses toutes bêtes, hein, comme si c'est pas trop loin, c'est pas trop dangereux, aller acheter le pain. Là, ça, c'est un bon exemple pour tester un petit peu comment vous pouvez l'accompagner dans le développement de l'autonomie. Alors, au début, donc il sait où est la boulangerie, hein, vous avez déjà fait le chemin ensemble. Au début, vous allez lui donner la pointe, vous lui dites « je veux telle baguette », vous l'envoyez, donc vous allez voir ce qui vous ramène bien la baguette, comment ça se passe, etc. Comment il compose si, finalement, il n'y a plus la baguette tradition, et puis comment est-ce qu'il s'arrange avec ça? Est-ce qu'il vous ramène quand même une baguette? Est-ce qu'il panique? Ensuite, vous allez tester, vous allez lui donner un peu trop d'argent pour voir comment il teste le rendu monnaie, voir s'il vous ramène bien toute la monnaie, comment ça se passe. Après, vous allez lui dire, bon, bah, avec la monnaie, tu peux t'acheter des bonbons. Alors, vous allez voir s'il revient sans argent, avec un gros paquet de bonbons, la langue toute bleue, parce qu'il a mangé plein de bonbons acidulés et pas de pain. Là, on voit qu'il va y avoir des petits réajustements à faire. Typiquement, le développement de l'autonomie, ça peut aussi être... souvent, avec l'entrée en sixième, ils vont au collège en bus tout seuls. Donc, on va regarder sur le site de la compagnie de transport le trajet, le faire chercher les horaires qui vont correspondre à son emploi du temps, à quel arrêt il doit descendre, quitte à faire avec lui le premier trajet pour voilà, le rassurer. L'autonomie chez l'enfant, elle va vraiment se développer de manière progressive. Ça se fait pas de manière linéaire, en fait. Hein. Des fois, ça va être par à-coups, il va y avoir des avancées, des progressions, et puis on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il va être moins autonome. Il y a des situations où il va se débrouiller vraiment tout seul très bien, et d'autres où il va avoir besoin de l'adulte. L'idée, ça va être de le valoriser, de lui montrer votre confiance au fur et à mesure, de l'accompagner là-dedans. Une image, moi, que j'aime bien pour illustrer ça, le développement de l'autonomie chez l'adolescent, chez le préadolescent, c'est l'image de la fusée. Votre enfant, c'est une fusée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, des photos. Une fusée, au moment du décollage, avant le décollage, il y a des échafaudages qui l'aident à se maintenir droite pour qu'elle puisse bien décoller dans l'axe. Donc, la fusée, c'est votre enfant. Les échafaudages, vous, c'est... la manière dont vous l'accompagnez dans ce développement de son autonomie. La fusée, elle a besoin d'avoir des échafaudages bien stables, bien présents, mais qui vont s'écarter au bon moment pour qu'elle puisse s'envoler. Les échafaudages, ils sont là pour faire en sorte qu'ils ne se crachent pas au fur et à mesure de ces différents essais. Mais quand le décollage il est bon, il est parti, il faut que les échafaudages ils s'écartent bien. Hein. On ne décolle pas avec les échafaudages, ce n'est pas possible. Donc la question, c'est de mesurer à partir de quel moment vous allez un peu écarter les échafaudages, laisser cette marge de liberté. Au niveau de la fusée, pour décoller, pour partir, prendre son envol correctement, il faut aussi qu'elle ait un plan de vol. C'est important, on ne décolle pas sans plan de vol. Le plan de vol, ça va être les règles, les limites, les repères que vous allez poser avec lui. Ça va être important pour que la fusée elle fasse un bon trajet. Donc, les limites, elles vont avoir un rôle de cadre vraiment protecteur. Elles vont définir ce qu'il est possible de faire ou non. Donc se limiter, respecter les limites, c'est se restreindre, en fait. Hein, donc, c'est accepter qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne va pas faire tout ce qu'on veut. C'est frustrant. Ça va forcément, je pense, mener à des confrontations, des conflits, des contestations à la maison. Ça peut être, par exemple, si votre enfant il a un téléphone, bah, j'imagine, hein, bah non, tu peux pas Tu peux pas dormir avec ton téléphone et discuter avec tes copains en pleine nuit alors que c'est l'heure de dormir. Tu as besoin de sommeil pour aller à l'école. C'est important. Donc, au niveau des limites, il y a ces limites-là que vous, vous allez poser à la maison. Et il y a aussi les limites qui sont matérialisées par la loi. Hein, les limites que nous, on est tous amenés à respecter. C'est pas forcément évident d'apprendre à nos enfants et surtout à nos pré-ados cette idée de limite parce que en fait aussi on vit dans une société où la question des limites parfois c'est un peu flou, un peu déroutant. On va essayer de nous pousser à dépasser nos limites tout le temps. La question de la frustration avec la société de consommation où on peut avoir tout de suite, c'est compliqué à inculquer, hein, mais bon. Donc ça c'est un autre sujet, on pourra en discuter après. Mais c'est assez paradoxal aussi, on leur demande de se limiter alors que tous les messages qu'on peut voir notamment à la télé, etc., c'est non, il n'y a pas de limite, on peut faire tout ce qu'on veut, repousser vos limites, voilà. Donc ça c'est une autre question. Donc dans ce contexte là, c'est pas forcément évident de poser les limites parce qu'on peut avoir peur que notre enfant il nous aime plus, hein. Moi en rendez-vous j'ai beaucoup de parents qui me disent moi quand je pose les limites, quand je lui dis non, il se met à pleurer, il me dit que je suis une mauvaise maman, un mauvais papa, enfin voilà. Et ça leur fend le cœur de poser les limites, ils ont l'impression d'être de pas faire comme il faut, de pas. C'est pas évident. Mais ces limites-là, en fait, elles sont vraiment vitales pour l'enfant. Elles vont être là vraiment pour le protéger. Pour le rassurer, pour lui prouver qu'il n'est pas livré à lui-même, qu'il n'est pas abandonné. Parce que quand on n'a pas de limite, quand on est tout puissant et qu'on fait tout ce qu'on veut, en même temps, ça veut dire qu'on est responsable de tout ce qui se passe. Quand on est tout puissant, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est pas possible. Les limites, elles vont aussi rassurer à ce niveau-là. Non, t'es pas puissant. C'est frustrant, mais en même temps, c'est un côté rassurant. Ce qui va aider à poser les limites aussi à la maison, ça va être d'être dans une situation de cohérence. Par exemple, mais ça on pourra en débattre aussi parce que je sais que pour en avoir discuté avec d'autres parents, ils sont pas d'accord sur ce sujet-là. En tant que parent, ça va être plus facile de poser les limites si on est en cohérence avec celle-ci. Par exemple, si on reproche à notre enfant d'être trop sur sa console, mais que nous, on est toujours sur notre smartphone ou notre tablette. C'est pas... Enfin, à cet âge-là, ils ont un grand besoin de justice, de... plus on va être cohérent avec ces règles-là et puis montrer que nous aussi, on applique des choses en lien. Par exemple, pas de téléphone à table, mais nous, on répond à nos textos en mangeant. Ça va pas être évident à ces âges-là de poser les règles, les limites. Ce qui va être intéressant pour les enfants de comprendre, c'est que nous aussi, en tant qu'adultes, on n'est pas tout puissant, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On a aussi des limites à respecter, ces limites-là, elles sont là pour protéger. Ils le comprennent très bien. Moi, l'exemple que je leur donne souvent, c'est l'exemple du feu rouge. Je suis en voiture, je vais au travail, j'ai un peu traîné ce matin, je suis en retard. Ça bouchonne un peu, devant moi, le feu, il passe au rouge. Je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. C'est tentant de passer. C'est tentant. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai intégré la règle. Parce que j'ai intégré que c'est interdit. Et si c'est interdit, c'est parce que c'est pour me protéger, puis protéger les autres usagers. Voilà. En tant qu'adulte, typiquement, on doit aussi respecter des règles. Et ça, ils l'entendent bien. Et ça leur plaît de savoir que nous, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Donc cette question-là des règles, des limites, du cadre, elle va forcément créer des conflits, il va forcément y avoir des frustrations, ils vont contester, on va avoir envie de céder pour avoir la paix, mais c'est important de tenir bon, à cet âge-là et ensuite en avançant dans l'adolescence, ils vont avoir besoin de tester le cadre. Ils vont avoir besoin de... ils vont dépasser les bornes, en fait, pour savoir où elles sont les limites, justement. Ils ont besoin de savoir où elles sont. Donc, ils vont mal parler, ils vont dépasser l'heure que vous avez dit. Ils en ont besoin aussi pour savoir où elle est la limite, mais c'est important que vous, derrière, vous lui dites, bah écoute, la limite, elle était là. Là, je suis pas OK avec ce qui s'est passé. Donc ça va être un moment qui est pas forcément facile, parce qu'ils vont se heurter au cadre. Ils ont besoin de sentir que la limite, elle est là, là. Et ils ont besoin, paradoxalement, encore une fois, c'est le grand écart, de savoir que même s'ils seront le plus détestables possible, même quand ils seront insupportables, que vous serez là pour eux, vous les abandonnerez pas. Vous serez solide, vous serez présent, vous allez résister à ces attaques-là. C'est vraiment important pour lui d'avoir ce repère-là. Pourquoi c'est important pour lui d'avoir ce repère-là ? Bah déjà parce qu'il n'a pas envie d'être abandonné, mais aussi parce qu'à l'adolescence, en fait, tout va changer chez lui, chez l'adolescent. Son corps, il change. Ses émotions, il va être submergé d'émotions un peu contradictoires qu'il ne connaît pas forcément. Ses goûts vont changer aussi. C'est très déstabilisant pour lui et il a besoin de savoir que voilà, vous êtes là en tant que repère. C'est l'importance des liens d'attachement avec la famille. Pour se développer, le préadolescent, l'enfant, il a besoin d'autonomie, mais surtout de liens. Il ne peut pas prendre son autonomie si le lien à la base il n'est pas solide et qu'il n'a pas confiance dans ce lien. Donc ce lien, il peut être compliqué, il va être malmené pendant cette période de la préadolescence, mais voilà, il a besoin que ce lien-là reste. Notamment parce que lui, il va remanier ses liens avec les autres. Le préado, il ne peut plus avoir la même relation avec ses parents que quand il était enfant. La distance parent-enfant, elle se modifie à cet âge-là. Donc, il va tester le trop proche et le trop loin. Ça, il le fait déjà dans son groupe de copains quand il teste ses interactions avec eux. Mais il va aussi le faire à la maison. Donc, le trop proche, ça va être... Plus il va satisfaire son besoin de lien avec vous, plus il va être proche de vous, plus il va pouvoir peut-être des fois ressentir une angoisse d'être envahi par vous. Il a besoin, lui, de se différencier de vous, d'être une personne différente, de prendre son autonomie. Mais voilà, s'il y a du trop proche, s'il ressent du trop proche, il va se sentir envahi. À l'inverse, plus il va prendre son autonomie, plus il va s'éloigner, plus le risque, c'est qu'il se sente un peu abandonné, parce qu'il sent que le lien, il se distend. Il a besoin de savoir que, pour se sentir en sécurité, que s'il prend son autonomie, que vous serez là quand même. Donc il va vraiment tester ça, ce trop proche, ce trop loin. Alors ça peut donner lieu à des choses assez déstabilisantes dans la relation. Typiquement, vous allez rentrer du travail, vous avez votre préado qui est sur le canapé, sur son téléphone. Vous êtes content de le retrouver, vous dites bah bonjour chérie, comment ça va, t'as passé une bonne journée? Alors là, vous êtes trop proche, peut-être. Lui, dans son ressenti, hein. Là, clairement, c'est banal là, ce que je viens de dire, enfin, tout le monde le fait. Et donc là, il va le vivre comme trop proche, il va dire ah bah ça va, tu me gonfles là, t'es tout le temps sur mon dos, tu peux pas me lâcher un peu. Alors, on comprend pas. Ça va être aussi, par exemple, 10 minutes plus tard, c'est votre conjoint qui rentre. Lui, par contre, bah, il vient vous parler sans forcément dire bonjour à votre enfant. Et là, ça va être le trop loin. Votre ado, il va pouvoir dire « Bah ok, d'accord, sympa, on me dit pas bonjour dans cette maison, j'existe pas. » C'est fatigant, hein ? Mais c'est parce qu'il est là en train de tester le trop proche, le trop loin. Donc, la distance relationnelle comme ça avec les autres, ça se régule, hein. Mais plus il va avoir confiance en lui, plus il va se sentir en sécurité à l'intérieur de lui, moins ces relations, ces interactions extrêmes, elles vont se passer. Par contre, plus il sent en insécurité à l'intérieur, moins il a confiance en lui, plus il va être dépendant de son environnement, plus il va être dépendant des parents, avec le risque de se sentir envahi. Alors il va avoir des réactions de rejet, parce que ça va être trop proche pour lui. Mais il ne se sent pas encore assez bien pour développer l'autonomie. Donc vraiment, la confiance en soi, c'est ça qui va lui permettre de se détacher progressivement la famille et puis pouvoir être en lien, mais autonome, sans se sentir abandonné. Donc, le préado comme ses parents, ils ont des sacrés défis à relever, hein, avec cette question-là de paradoxe, toujours de grand écart. Je pense que je vais passer à la conclusion. Ouais. Donc, 5 petits points pour aider votre enfant à s'autonomiser. Donc déjà, ça va être de l'aider à prendre des initiatives, de l'amener à prendre des initiatives progressivement. Ensuite, de valoriser vraiment ses actions. L'idée, c'est qu'il puisse réussir ses prises d'autonomie. Donc, faire des petites choses qu'il va réussir au fur et à mesure. Pas lui donner une grosse tâche où vous n'êtes pas sûr qu'il va y arriver. L'idée, c'est qu'il se sente valorisé, qu'il développe sa confiance en lui. D'expérience, le houspiller pour en lui disant mais de toute façon tu fais rien, tu te bouges pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, souvent ça marche pas parce qu'ils font le contraire de ce qu'on leur demande. Donc l'idée, ça va être vraiment de passer par des petites choses à valoriser pour que il se rende compte qu'il est capable de faire des choses. Ça peut être, donc là on parlait d'acheter le pain, on parlait de prendre le bus, ça peut être aussi participer aux tâches ménagères. Qui se rendent compte qu'une maison, ça ne fonctionne pas comme par magie tout seul. Et ensuite, pour que, en grandissant, ils puissent devenir de plus en plus autonomes. Également, l'inciter à être avec ses amis. Parce que justement, pour développer son autonomie, il a besoin de sentir qu'il fait partie d'un autre groupe que le groupe de la maison. Donc, soit vous lui faites confiance pour aller chez des copains, vous le déposez, enfin, vous connaissez ses copains et vous lui faites confiance par rapport à ça. Soit vous n'êtes pas sûr de ses copains et vous avez envie de les connaître, donc à ce moment-là, vous les invitez à la maison, vous voyez qui ils sont, et ça vous permet aussi un peu de jauger, de voir quelle fréquentation votre enfant il peut avoir. Et ensuite, être à son écoute. Ça paraît évident, mais l'enfant, il va avoir besoin de sentir que vous êtes à son écoute, que vous serez là pour lui en cas de souci. S'il a peur de vous, s'il a peur que vous le jugiez négativement parce qu'il a mal fait quelque chose ou parce qu'il ne se débrouille pas assez bien, le risque, c'est qu'il ne vous confie plus rien et qu'il ne prenne plus d'initiative pour s'autonomiser. Donc l'idée, ça va être de montrer vraiment que vous lui faites confiance et lui, comme ça, il va pouvoir développer sa confiance en lui et devenir autonome. Y a une petite phrase que j'aime bien par rapport à cette question-là de l'autonomie. C'est une phrase de Philippe Van Merbeek, c'est un psychiatre psychanalyste, qui dit « L'enfant prend son envol dans la mesure où on l'aide à le prendre. Hein, » Ça reprend l'image de la fusée. Vous êtes l'échafaudage, après, voilà. C'est ça qui va lui permettre de s'envoler. Ensuite.
Merci. Hop là, je coupe l'enregistrement.